les dents, quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineuse. La solution à cœur. C'est ça la médecine. Je veux la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment chaque tous les mercredis. Voilà. Eh bien, l'actualité de la psychiatrie avec aujourd'hui, je vais commencer par un article de Mediapart du 23 juin 2023 intitulé « Leur fonctionnement absurde rend fou. Comment Pôle emploi et la CAF malmènent la santé mentale ?» Un article donc de Selim Derkaoui. Alors je scroll un peu. Oui. Bon, parce que même si dans le vieux port de Marseille, il est possible de trouver un boulot en faisant le tour, puisque les restaurants, n'est-ce pas, demande de la main-d'œuvre avec le tourisme, tout le monde ne souhaite pas ni n'a la compétence d'avoir ce job. Voilà. Donc c'est pour parler aussi, parce qu'on va parler aussi évidemment de donc Pôle emploi et donc d'emploi. Le fonctionnement brutal de Pôle emploi et des caisses d'allocation familiale peut conduire à dégrader la santé déjà fragile des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA. Confrontés à des institutions qui agissent sans garde-fou, les allocataires peuvent basculer jusqu'au pire. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2021, Johan Silly, 41 ans, a tenté de mettre fin à ses jours chez lui. Les retenues répétées sur son allocation chômage, déjà peu élevée, 900 euros par mois, et des courriers menaçants de Pôle emploi ont fini par le pousser à bout. Il avait perdu son emploi et alterné un poste de cariste en intérim et de courtes périodes de chômage. Pendant des mois, Pôle emploi a modulé le paiement de son allocation en fonction du nombre d'heures travaillées déclarées, mais les trop perçus et les indus, ces sommes que l'institution demande de rembourser en raison d'erreurs de déclaration ou de calcul, se sont multipliées, tout comme les mises en demeure et les retenues sur allocation, pourtant jugées illégales en 2022. Oui, rappelons-nous que les retenues sur allocation sont illégales. Il déduisait ce qu'ils pensaient que je leur devais, alors que je contestais systématiquement les trop perçus, précise Johan Silly. En colère, il hausse le ton et manifeste son mécontentement au siège de son pôle emploi de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, le 11 mars 2021. La police municipale intervient et la directrice de l'agence dépose deux plaintes pour outrage. Il est également fiché et fait désormais partie des chômeurs dits agressifs. Quatre jours plus tard, il appelle les pompiers, puis, au moment de leur arrivée, se plante un couteau dans le corps. « J'ai été à l'hôpital, sans ça je n'étais plus de ce monde. Leur fonctionnement est absurde, ça rend malade, ça rend fou », raconte-t-il la voix fébrile. Pas besoin de harceler les gens pour si peu, d'autant plus que je m'adapte au marché du travail. La directrice de l'agence lui a adressé ses excuses et a retiré les deux plaintes. La locataire, qui a depuis déménagé dans le sud de la France, n'avait aucun antécédent psychiatrique. Il a passé plusieurs jours par un centre médico-psychologique, mais selon lui, le problème de fond est politique et social, pas simplement psychologique. Le cas de Johan Silly est loin d'être isolé. Épuisés par leurs conditions de vie, vivant mal les demandes répétées de Pôle emploi ou de la caisse d'allocation familiale, des allocataires peuvent aisément basculer. Une salariée d'un CMP de Seine-Saint-Denis estime que ces cas sont légion. Un vrai phénomène de fond, confie-t-elle. Pôle emploi et la CAF génèrent beaucoup d'anxiété. Certaines personnes qui ont parfois des antécédents ou des problèmes qui s'accumulent atterrissent même en hôpitaux psychiatriques. Benjamin Royer-Fillion, psychologue ayant exercé une dizaine d'années dans un CMP, confirme. Certains ont honte et font de lourdes dépressions. On les culpabilise alors qu'ils réclament leurs droits. Des personnes aux revenus de solidarité active, RSA ou au chômage, font même des rêves administratifs horribles où elles sont coupables et poursuivies. Des cauchemars, CAF, Caïen. La santé des demandeurs et demandeuses d'emploi est souvent fragile, y compris sur le plan psychique, comme le rappelait, fin 2021, une étude menée par 4 associations. D'après le ministère du Travail, 24% des hommes et 26% des femmes ayant été au chômage signalent au moins un symptôme d'état dépressif ou d'anxiété. Et selon des travaux de l'INSERM de 2014, repris par le Conseil économique, social et environnemental en 2016, 10 000 à 14 000 morts par an sont imputables au chômage. Disponibilité totale et formations inutiles. Pour Pierre Garnaudier de la CGT Chômeurs et Précaires, les courriers menaçants de Pôle emploi mentionnant sans explication les indus affectent bien la santé des personnes. Valentine Maillochon, membre du Mouvement national des chômeurs et précaires, constate elle aussi l'impact dévastateur des courriers de contrôle et du ton agressif de certains conseillers et conseillères. Depuis 2022, elle observe une nette augmentation des contrôles de Pôle emploi, laquelle cause une énorme dose de stress qui s'ajoute à un quotidien déjà précaire et incertain. Pour Fabien Lemozy et Stéphane Lelay, les chercheurs qui sont chercheurs à l'Institut de psychodynamique du travail, IPTD, c'est l'organisation même de Pôle emploi et de la CAF qui a des effets délétères sur la santé. Ils étudient actuellement l'expérience de la précarité et ses liens avec la santé mentale et le constat leur paraît clair. Le postulat initial, c'est que Pôle emploi organise le travail du demandeur. Quand on est inscrit, il vient contrôler ce que l'on fait. Il faut être en recherche active d'emploi, être disponible à n'importe quel prix. Forcément, cela a des effets sur la santé. Fatima, 39 ans, est demandeuse d'emploi depuis plusieurs années. Elle enchaîne des contrats courts et se déclare être en situation de détresse psychologique. C'est justement cette injonction de recherche active d'emploi qui l'angoisse le plus. On n'est pas forcément aidé, donc on stagne. Le médecin a dit que j'étais déprimée. Il a diagnostiqué une fibromyalgie, des neurologies, des maux de dos, les épaules et les bras bloqués, énumère-t-elle. Des antidépresseurs, je refuse, ça ne résout rien. C'est un pansement pour dépolitiser nos problèmes, dit-elle, des sanglots dans la voix. Et les réformes de l'assurance chômage, c'est une angoisse supplémentaire catastrophique. En France, plus de 5 millions de demandeurs et demandeuses d'emploi sont tenus de rechercher un travail, mais seulement la moitié sont indemnisés. Alors, 5 millions de demandeurs. Pour un total, selon le ministère du Travail, de 350 800 emplois vacants au premier trimestre 2023. Donc, 5 millions de demandeurs, selon les chiffres, et 350 800 emplois vacants seulement. Donc voilà, même si ces chiffres sont fluctuants et disons, on n'entre pas dans les détails, ça montre quand même un petit peu qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde, contrairement à ce que peuvent dire certains politiques. Je continue. De quoi faire, dire aux allocataires interviewés par Mediapart que Pôle emploi vend du rêve et perpétue une vaste blague collective. Pourquoi nous faire espérer autant, interroge un chômeur. La chute est encore plus dure. On doit faire aux gens, on fait faire aux gens des choses qui ne correspondent pas au réel, des formations inutiles. Du coup, ça explose au niveau psychopathologique, remarquent Fabien Lemozy et Stéphane Lelay. Pôle emploi et la CAF sont-ils en mesure de comprendre ces mécanismes ? Considérer que la relation avec l'opérateur Pôle emploi contribue à la détérioration de l'état de santé serait se méprendre sur les causes réelles et bien plus profondes de la situation vécue par les personnes en recherche d'emploi, assure l'institution à Mediapart. L'usure psychologique est principalement liée au sentiment de découragement, à l'image sociale et à la perte de confiance en soi. Donc, pour résumer, c'est comme si leur réponse était « on n'y est pour rien ». Je ferme ma parenthèse et je poursuis l'article, la lecture de l'article. La Caisse nationale des allocations familiales, elle, insiste sur l'écoute et le conseil des publics au cœur des missions des 35 000 salariés des CAF qui ont reçu l'année dernière plus de 4 millions de visites dans leurs accueils et répondu à plus de 34 millions d'appels téléphoniques. Elle indique ainsi qu'en 2022, 400 000 familles ayant connu un événement de vie fragilisant ont été accompagnées par nos 2 000 travailleurs sociaux. C'est une référence à la lecture d'un autre article. Les conseillers ne sont pas du tout formés et manquent de temps. Ils baladent les allocataires de formation en formation, estiment néanmoins les chercheurs Fabien Lemozy, et Stéphane Lelay. Et il n'y a pas toujours de psychologue pour vous prendre en charge, ou bien ils ne sont pas forcément formés par ces situations. Pour ces situations. Sylvie Dujardin est justement psychologue du travail à Pôle emploi depuis une dizaine d'années. Et elle est encore plus catégorique. Pôle emploi ou la CAF nuisent gravement à la santé de leurs allocataires et génèrent des maladies. Elle dit côtoyer la détresse au quotidien, des décompensations psychiques et cardiaques. La psychologue rappelle que la menace de radiation en cas de non-réponse aux convocations ou de manque d'assiduité dans les démarches est violente. C'est très grave d'avoir ce pouvoir de sanction. Il devrait être utilisé avec circonspection. C'est la banalisation du mal, lance-t-elle. Les gens subissent et les droits sont continuellement rabotés. Les allocataires qu'elle rencontre ont une peur bleue de se faire contrôler et angoissent de manière maladive à la lecture de courriers annonçant des indus à rembourser. On te donne de l'argent et ensuite on te le reproche. Et le tout numérique pénalise grandement de nombreux allocataires. Je suis surprise que personne ne balance des parpaings sur ces institutions. Les gens sont terrorisés, ils pleurent en rendez-vous. C'est une maltraitance institutionnelle hyper violente. Et les menaces de suicide sont récurrentes. Ça, c'est une citation de Bérénice, conseillère Pôle emploi. On va le réentendre tout à l'heure. Ce constat vaut pour Pôle emploi comme pour la CAF. Rudy Desrumiers, gestionnaire conseil à la CAF du Nord et militant CGT, considère lui aussi que les courriers de contrôle sont rédigés en des termes rabaissants, culpabilisateurs et blessants. Il en énumère des extraits. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Si vous ne venez pas à ce rendez-vous, vous vous exposez à une réduction-suspension. Vous nous devez XXX euros. Nous allons signaler, et ainsi de suite. Des termes que Christine Delio, 64 ans, au RSA et mère isolée avec un enfant à charge, connaît bien. La CAF lui réclame régulièrement des documents attestant des rémunérations de stage de son fils. et en attendant son RSA de 526,72 € peut être suspendu pendant plusieurs semaines. Je fais des insomnies, je suis très fatigué avec des sensations de lassitude extrême, un manque de souffle lors d'efforts, des malaises comme si le sol s'ouvrait pour m'engouffrer, confie-t-elle. Je pense me forcer à aller consulter prochainement, mais je remets sans cesse. Les gens sont terrorisés, ils pleurent en rendez-vous. C'est une maltraitance institutionnelle hyper violente et les menaces de suicide sont récurrentes, constate aussi Bérénice, conseillère Pôle emploi, en placement depuis 2013 et ex-déléguée syndicale CGT. Elle raconte avoir vu dépérir un ancien professionnel de santé qui avait subi un burn-out. Il m'avait écrit pour me dire qu'il voulait se suicider alors qu'il avait une énergie de dingue avant. La psychologue de Pôle emploi lui a hurlé dessus et a fait un signalement contre lui. Elle a déclaré qu'elle n'était pas payée pour subir ce genre de propos suicidaires. Cet aspect ne doit pas être négligé. Les psychologues et les conseillères et conseillers, peu considérés, sont aussi abîmés par le spectacle d'allocataires en grande fragilité qui menacent parfois de se jeter d'un pont. Impuissants, certains conseillers et conseillères adoptent des stratégies de défense et une forme d'ironie déshumanisante. Ces états dépressifs ne font pas forcément l'objet d'un écrit et d'un suivi de dossier, commente Rudy de Rumier. Les techniciens sont désemparés et personne n'a envie de faire de l'accueil face à ces situations très difficiles. Le métier ne donne pas envie, il y a peu d'embauches. Un technicien comme moi, c'est un SMIC quelques années et peu d'évolution salariale. Les démissions et les arrêts maladie ne cessent d'augmenter, déplore-t-il. Alors, pas de justice pour les pauvres ? Louisa, 60 ans, a une extinction de voix. Selon son médecin traitant, les courriers de menaces de suspension de la CAF et les montagnes de justificatifs à lui fournir l'ont stressée au point qu'elle en a perdu sa voix. Il lui propose de lui prescrire des antidépresseurs, mais peut-il lui fournir un certificat médical qui établisse le lien entre son état de santé et la responsabilité de la CAF ? Quelles seraient les voies juridiques possibles pour mettre ces institutions face à leurs responsabilités ? Pour les avocats, Rachel Saada et David Van der Vlist, figure du syndicat des avocats de France, il est possible d'attaquer en justice Pôle emploi ou la CAF en cas de demandes erronées de remboursement d'indus, d'autant plus si elles ont des conséquences sur l'état de santé. Quand c'est l'organisme qui a commis une erreur, il est possible de demander des dommages et intérêts allant jusqu'au montant de l'indu, indique-t-il. Pour démontrer le préjudice subi et obtenir une indemnisation, il faut donc montrer un dossier médical le plus étoffé possible qui mette en évidence la situation d'anxiété importante ou la dépression et éventuellement le préjudice physique, explique-t-il. Mais dans les faits, les victoires judiciaires de ce type sont rares du fait de la difficulté à produire des éléments médicaux suffisants, mais aussi des réticences de la justice à indemniser le préjudice moral. Pour complexifier encore la situation, Pôle emploi et la CAF sont quasiment injoignables. Leurs services ne communiquent pas entre eux et les délais de contestation sont très courts. Le droit des pauvres est compliqué, très technique et pas vraiment enseigné à l'université. Les avocats doivent s'auto-former, constatent Rachel Saada et David Van der Vlist. Et pour le justiciable, le montant de l'aide juridictionnelle est faible et c'est encore un autre dossier à faire. Rien qu'appeler pour prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Une forme d'intimidation sociale, dénonce-t-il. Pôle emploi évolue lentement. En 2022, il a lancé le parcours emploi santé, permettant de bénéficier d'un soutien psychologique et d'enclencher un parcours de soins adapté. Mais la psychologue du travail, Sylvie Dujardin, n'est pas convaincue. Ce sont des CDD précaires qui accompagnent ces demandeurs d'emploi. Les choses se font à distance et les entretiens sont finalement collectifs. De son côté, la Caisse nationale des allocations familiales renvoie vers les départements qui ont pour rôle l'accompagnement global des personnes en situation de précarité et sont censés pouvoir offrir un accompagnement personnalisé avec un référent au prix d'un labyrinthe administratif de plus. Fin de l'article, donc, de cet article de Mediapart. Bon, voilà, c'est du 23 juin 2023. Alors, je passe tout de suite à un autre sujet. Avant... oui, pour la, bon, voilà, pour le deuxième tiers de l'émission. C'est, donc vous écoutez toujours l'Entonnoir sur Radio Libertaire, l'Entonnoir émission critique de la psychiatrie, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Et le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, a organisé samedi 24 juin 2023 une conférence débat. Une conférence débat. Père aidant sans santé mentale, les pour, les contre, où en sommes-nous? Des arguments pour une abolition de la contention des patients? Des mouvements de personnes psychiatrisées? Les mouvements de personnes psychiatrisées ont une histoire. Voilà ces trois volets donc, dont il a été question lors de cette conférence débat. Et pour le premier thème, la père aidance professionnalisée, il y a eu l'intervention de Madame Natacha Guiller et puis l'intervention de Fanny Mériot. Fanny Mériot. Et puis il y a eu un débat avec la salle. Et donc Fanny Mériot, qui est à l'origine de la, enfin à l'origine avec d'autres personnes, hein, de la mise en place de la COFOR à Lille. Alors j'ai pris un peu des notes de ces débats. Alors, la deuxième partie, c'était un exposé du docteur Mathieu Balessen sur son livre sur la nécessité d'abolir la contention en psychiatrie. Et ce livre va paraître prochainement. Et sur sa conception des prises en charge et de la nécessité d'élaborer des contre-pouvoirs. Et puis le troisième thème, c'est une intervention donc de André Bitton pour une petite conférence intitulée « Pour une histoire des organisations de personnes psychiatrisées des années 1970 aux années 2010 ». Alors... pour ce qui est donc de cette conférence débat sur le sur la père aidance, quand je suis arrivé, donc c'est Natacha Guiller qui parlait. Je suis arrivé un peu en retard, je dois le dire, et qui parlait de père aidance. Donc je cite juste une de ses phrases que, eh bien, la père aidance est une activité, une discipline, je ne sais plus quel était le terme qu'elle avait employé, peu valorisée, voilà, par rapport à tous les autres métiers autour du soin psychiatrique. Eh bien, ça n'a pas beaucoup de crédit auprès de tous les institutions et les équipes soignantes et les directions d'hôpitaux, etc. C'est tout ce que j'ai donc je peux dire par rapport à l'intervention de Natacha Guiller. J'aurai peut-être l'occasion de vous lire un compte rendu plus détaillé dans les prochaines semaines. Le compte rendu, celui que va produire le CRPA. Alors, Fanny Mériot, père aidante, COFOR Lille, quelques citations aussi. Mmh. Il manque des maillons pour faciliter l'accès à l'information. l'information destinée à tous, c'est-à-dire à l'information destinée non seulement aux personnes concernées, mais aussi aux familles et aux professionnels. L'idée, c'est de décloisonner. Alors, par exemple, alors après, une intervention évoquant l'hôpital de jour. Les patients d'hôpital de jour critiquent l'institution. Une vieille institution qui n'a pas envie de mourir. Elle encourage l'autostigmatisation. Tous les sentiments sont rattachés à la maladie. Tous nos sentiments. Notre identité et notre maladie, on devrait plutôt... associer donc la maladie à l'identité, voilà. On devrait plutôt dire la maladie, c'est la société qui en est atteinte. Bon, ça c'est un truc qu'on entend assez souvent. Le pouvoir des sachants sur les concernés, les pères ont les pères eux-mêmes ou elles-mêmes ont intégré le vocabulaire des sachants. On travaille à ce que chacun retrouve le langage simple, mais aussi apprendre le glossaire des soignants pour pouvoir débattre avec eux et elles sur un même pied d'égalité. Donc voilà, ce n'est pas toujours le cas quand les pères aidants sont en institution. Donc les médiateurs de santé pairs, on constate un certain nombre de médiateurs de santé pairs disant on ne veut pas de militants, enfin qui constatent que voilà, il faut sur. C'est la condition pour être accepté, c'est de ne pas être militant. On ne prend pas des gens qui ont une idée négative de la psychiatrie. Bien sûr. Le 23 septembre 2023, il y aura une conférence sur le COFOR Lille. Alors, après, j'essaie de relire encore un peu mes notes. Que j'ai écrite sur. Voilà. Alors, en fait. Sur la formation. Alors, c'est toujours. Fanny évoque l'importance qu'a eu le COFOR sur son parcours de rétablissement. On est vraiment dans une bonne expérience. Et elle ajoute, il manque des formations qui soient constructives par les concernés, faites par les concernés, pour les concernés. Mais par et pour les concernés. Excusez-moi, je suis à monter des. Bon, je poursuis. Là, c'est illisible. Alors voilà. Expérience de patient, mise en savoir pour pouvoir la transmettre. éviter de cobayiser les personnes et démonter la relation maladie-identité. Alors que, en général, ces médiateurs de santé pairs sont donc fragilisés par sont fragilisés par leur antécédent de psychiatrisé, hein, et puis et du coup ils sont un petit peu sous une certaine domination de l'institution. Ils sont plus encore que les soignants traditionnels. Par exemple, c'est un peu comme si on leur disait on vous sort de la précarité, vous avalez notre discours sans discuter. Alors donc, c'est-à-dire que tout le, comme on disait, tout le glossaire, tout le vocabulaire de la psychiatrie coercitive va être reprise par ces médiateurs de santé pair. Voilà pour en gros donc situation difficile encore pour les médiateurs de santé pair, c'est-à-dire que je rappelle hein, que ce sont d'anciens et d'anciennes psychiatrisés, enfin des personnes qui ont connu l'hôpital et enfin la psychiatrie du côté patient entre guillemets, et qui en font dont l'expérience devient un moyen de soigner d'autres personnes, d'être plus proche des personnes concernées, d'être parfois donc se trouver aussi en situation de médiation, enfin dans des situations assez complexes, assez souvent aussi, et très diverses. Voilà, de toute façon on reviendra sans doute sur ce thème beaucoup avec des invités, j'espère, au cours de cette à l'entonnoir. Alors le livre de Mathieu Bellassène, donc je vais vous donner juste la lecture d'un extrait de la Tribune pour le Parisien sur la psychiatrie, l'appel de la signature qui a été donné à travers la conférence de presse au cours de ce mois. Alors, Tribune pour le Parisien, mais c'était la version non définitive, donc c'est l'effet d'Annecy, de Bordeaux, de Reims, de Paris et tant d'autres avant eux, commis par des personnes en grande souffrance psychique, oblige à réfléchir. Ben, on parle des actes graves commis par des personnes psychiatrisées. Oblige à réfléchir au-delà des cas individuels, aux causes profondes et systémiques de tels passages à l'acte. Comment ne pas les mettre en regard de ce qui est documenté depuis plusieurs années, à savoir la destruction des services publics avec la santé et la psychiatrie aux premières loges de la démolition ? Faut-il continuer d'accepter cette spirale infernale de violences individuelles et institutionnelles, du non-accueil et de la transformation des soins en véritable machine à broyer les personnes malades et celles qui s'en occupent ? En plus de son infamie, l'utilisation politique de ces drames est une douleur de plus à porter. Elle passe à la trappe les efforts déployés par les équipes pour que les patients s'en sortent. Elle surstigmatise des personnes vulnérables. En 2018-2019, des professionnels, des psychiatrisés et leurs proches se regroupaient au sein du printemps de la psychiatrie pour dire quelle catastrophe ce serait d'accepter des soins psychiques qui ne se fonderaient pas sur l'accueil, la rencontre et l'intérêt porté à l'existence humaine. Tous les appels lancés depuis ne trouvent aucun débouché politique, si ce n'est la répression des lanceurs d'alerte, la maltraitance qui s'intensifie partout, ou les grands messes de communication gouvernementale comme les assises de la santé mentale en 2021. Dans le même temps, la contention, la chambre d'isolement, l'hospitalisation sans consentement, ces pratiques se banalisent à toute vitesse, tout comme les prises en charge au rabais basées sur les seuls traitements médicamenteux et leur lot de contraintes physiques et légales, comme la mise sous tutelle. Et tout ceci sans réel accompagnement social ou d'insertion. Faute de moyens humains, faute de place et de volonté politique de soigner, l'accès aux soins se raréfie partout en France. Les services ambulatoires pour les enfants et les adultes sont bourrés à craquer, de même que les lieux d'accueil. La prévention s'en trouve purement et simplement abandonnée. Impossible aujourd'hui de négocier un accueil à l'hôpital psychiatrique. Impossible d'exiger des soins sans médicaments, sans isolement, sans contention, quand bien même les personnes viennent de leur plein gré. C'est au point que certains soignants eux-mêmes découragent leurs patients de se faire hospitaliser. Ils leur déconseillent de se présenter aux urgences si elles ne sont pas déjà fermées, par crainte d'un désastre lourd de conséquences. Les proches, les aidants, les familles n'ont pas davantage le droit à la parole et guère plus d'influence sur les décisions médicales et administratives prises entre les murs, sauf à entrer en contentieux pour des années contre l'administration. La contrainte psychiatrique et l'isolement ne sont pas le soin. Quand l'une ou l'autre est nécessaire, il s'agit alors d'une mesure lourde qui doit accompagner les soins psychiques et en aucun cas s'y substituer. La sécurité de tous exige des services publics conçus pour et avec les usagers et non contre eux. Elle exige également un respect des libertés fondamentales et par là même une remise en question de la culture de l'entrave et de l'enfermement qui rend la psychiatrie odieuse et génère une souffrance éthique insupportable parmi les professionnels les plus attentifs à ces enjeux. Après le drame de Bordeaux, le ministre de l'Intérieur a déclaré « Ces faits d'une rare violence doivent être très sévèrement punis pour qu'ils ne se répètent plus jamais. » Il est temps en effet de punir très sévèrement le système qui valide jour après jour la tragédie des malades. Abandonner les personnes au mal-être, à l'errance, ne leur proposer que des prises en charge de court terme, d'urgence, avec trop souvent le recours aux sangles et aux cellules d'isolement, sont les options délétères imposées par les pouvoirs publics actuels. Aucun plan de santé mentale, aucune télépsychiatrie ne résorberont cette inhospitalité structurelle et ses abus. Il est temps de faire autrement. Ces pratiques relèvent de la maltraitance pure et simple du corps et de la psyché et nourrissent une rancune envers les blouses blanches qui va grandissant et avec elle la peur d'être soigné désormais. En miroir, se développe chez les professionnels la peur du contact avec les patients, la méfiance, l'épuisement. Nous devons repartir du vécu des personnes usagères, de la psychiatrie, de leur vulnérabilité et de leur sensibilité, de leurs aspirations à être réellement soignées et prises en compte au sein de la société. À défaut, aucune, entre guillemets, innovation, numérique ou managériale, ne masquera la politique criminogène, les pénuries construites politiquement et cette conséquence fatale. Quand la folie n'est pas accompagnée dignement, elle peut, dans certains cas, se muer en furie. Le désespoir est-il un projet de société ? Voilà, donc c'est sa tribune. C'était pour recueillir des signatures. Manifester. Pour que ça change, voilà, tout simplement. Alors, pour finir l'émission, à 10h11, je n'ai pas le temps de vous... de vous diffuser l'intégrale de l'histoire des mouvements de psychiatriser la petite conférence de André Bitton, mais peut-être qu'on peut quand même en écouter un extrait, donc histoire des mouvements psychiatrisés vue sous l'angle donc de l'expérience du GIA, le groupe Information Asile. C'était donc dans les années 70 et 80 et 90. Et puis toutes les mutations, les mutations militantes qui se sont faites pendant cette période jusque donc de 1960, des années 1970 aux années 2010.
Bon, donc je démarre une vidéo. Alors, je dois intervenir demain, 24 juin, sur l'histoire des mouvements des psychiatrisés en France. Il y a une vraie difficulté hein, pour cette dite histoire, c'est que, autant que j'ai pu voir, nous ne sommes pas reconnus comme ayant capacité à voir par nous-mêmes une histoire et à dire et à rédiger cette histoire. Ainsi, en 2015, il m'a été répliqué par un sociologue, un chercheur sociologue universitaire, que j'ai dû démentir. D'ailleurs, que comme je n'étais pas historien, je n'avais pas de métier, ni même de formation, je n'avais pas capacité. Ah oui, enfin, moi je fais quand même partie des personnes qui s'instruisent, je suis abonné régulièrement à une revue d'histoire, c'est une discipline que j'aime bien. Il n'est pas interdit dans la France contemporaine et sous nos latitudes, où que ce soit, d'ailleurs maintenant avec toutes les facilités de l'Internet, de se documenter et de se cultiver. Donc cette objection me paraît nulle et non avenue. Des groupes militants, des groupes associatifs ont parfaitement le droit et la capacité d'avoir leur histoire et d'avoir un point de vue général, politique et même de représentation d'intérêts, y compris lorsque les travaux d'impact nationaux sont en cours, sur ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en œuvre. Alors il y a une autre difficulté qui est qu'il y a une différence entre les mouvements de personnes patientes de la psychiatrie qui ont été encouragés, valorisés, reconnus par les autorités sanitaires et le gouvernement, et les mouvements contestataires. Et cette différence, c'est un véritable conflit d'ailleurs, fait que les thésards, les historiens, les officiels qui ont plus ou moins travaillé sur ce terrain, à un titre ou à un autre, et ce, y compris des personnes psychiatrisées, telles Stéphane Jaffrin, récemment décédé dans son bouquin récemment publié sur la tribu des GEM, mettre de côté l'antériorité des mouvements de psychiatrisés en contestation ou non institutionnalisés par rapport aux mouvements institutionnalisés. Alors tout d'abord, au niveau institutionnel, c'est par les ordonnances Juppé de 1996 de réforme de la sécurité sociale et de l'hôpital psychiatrique public et privé que s'amorce en France la reconnaissance officielle institutionnelle de la représentation des usagers, patients et aidants dans les instances sanitaires hospitalières. Et en l'espèce dans les établissements psychiatriques. Et c'est à partir de cette date, au printemps 96, qu'est déroulé, comme me l'avait dit le docteur Jean-Michel Kahn, ancien président de la FNAPSI, de 95, 96 à 98, qui a passé la main à Claude Finkelstein en 98, comme me l'avait dit lors d'une interview Jean-Michel Kahn, les autorités sanitaires ont déroulé un tapis rouge à ce petit groupe d'associations qui était vraiment très très sous-développé comparativement aux autres pays, en disant « vous allez représenter les patients de la psychiatrie dans les instances ». Dans l'espèce, ça s'était fait avec l'accord et même la participation depuis déjà 2 ans, je pense, dès 1994, hein, je pense, d'un directeur d'hôpital, celui de Maison-Blanche, M. Mordelais, et de M. Joël Martinez, directeur de l'hôpital Esquirol. Et par ailleurs, il y avait l'accord volontaire de patrons de la psychiatrie, et parmi ces patrons de la psychiatrie, un qui a joué un rôle très important, le professeur Édouard Zarifian, décédé en 2007, qui était médecin-chef d'un service de psychiatrie à Caen, à l'hôpital où c'est le CHU. Donc, l'on confond cela, et l'officialisation de ces mouvements, avec un acte de naissance des mouvements de personnes psychiatrisées en France. Non, ce n'est pas le cas. Alors, des coalitions éphémères de personnes connaissant ou ayant connu l'internement psychiatrique, il y en a eu dès le 19e siècle, mais ça n'a pas pris souche. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le premier mouvement de personnes organisées en contestation, d'ailleurs en revendication et en revendication juridique, hein, juridique et politique, des personnes connaissant la psychiatrie et plus précisément l'internement psychiatrique, c'était non pas un mouvement de patients. Hein. Le groupe Information Asile s'est jamais vraiment reconnu, sauf sous ma présidence, comme étant un mouvement d'usagers, patients, ex-patients, patients contraints, patients involontaires, mais bien un mouvement d'internés. Ex-interné, interné. Quand j'ai intégré le groupe Information Asile en 90, le mot qui définissait les gens protagonistes de ce mouvement, c'était « on a connu l'internement ». On est des internés, anciens internés, et on se bagarre pour nos droits. Et les moins atteints, les non-atteints, tuteurs et guides, par leurs actions et par leur leadership, les plus atteints du groupe, qui étaient à condition de ne pas enterrer les plus faibles, ou celles et ceux qui pouvaient s'en sortir, c'était aussi bien ainsi. Il y avait là quand même une certaine dynamique autour de Philippe Bernardet, qui était celui qui développait les écritures contentieuses et les écritures politiques. Alors d'ailleurs, il faut voir qui était Philippe Bernardet, puisque il en dépend beaucoup des personnes. Donc en fait, on doit se plonger dans la dynamique des événements de mai 68 pour savoir ce qu'il en est. En fait, il y a une fameuse circulaire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement anti-aliéniste prend corps et cela va déboucher sur le développement des techniques de psychanalyse, psychothérapie institutionnelle, soyez à l'hôpital pour que l'hôpital soit soignant, puisque c'était la question de la chronicité du monde asilaire, qui est un monde terrifiant. Moi, j'ai connu les dernières années de l'hôpital psychiatrique village, c'est un monde de chronicité épouvantable, c'est vraiment tout, quoi. Moi, j'ai connu des gens qui ont pratiquement sont nés là-dedans, ont été placés enfants, ils y ont mené toute leur vie, hein, quand même, bien. Donc c'est ce qui se dessine, c'est l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, le développement du secteur, le développement des prises en charge hors la ville, mais c'est en France sous un état d'esprit très paternaliste. C'est messieurs dames les soignants, c'est messieurs dames les professionnels, avec leur hiérarchie, leur patron, leurs leaders qui ont leurs entrées au ministère de la Santé et qui siègent ou envoient leurs délégués à la commission des maladies mentales qui auprès du ministre de la Santé, qui va aiguiller la politique psychiatrique nationale jusqu'à la fin des années 80. Donc on est sous un étouffoir paternaliste, ces messieurs, dames, les professionnels, et la période de l'après-mai 68 est une période également qui, en France, met à la mode l'antipsychiatrie, la parole du fou, la valorisation de la folie, mais à travers cela, les très timides de percer pour que des internés, des personnes connaissant les horreurs institutionnelles puissent s'exprimer, puissent protester, puissent faire valoir ce qu'elles ont à dire. Alors là, c'est très tenu et très, conditionné par est-ce que ces messieurs, dames, les professionnels veulent bien laisser la parole, un petit peu de créneau par-ci, par-là. Et c'est dans ces conditions que le groupe Information Asile, qui veut affirmer la question des droits des personnes psychiatrisées, à travers notamment une charte fondatrice du 4 décembre 1972, rédigée par 4 internés de Perret-Vaucluse dans le service BARC du 17e arrondissement, où il y a un interne en psychiatrie qui officie, qui est le fondateur et le développeur du groupe Information Asile, Dimitri Couchès, qui va quitter ce mouvement en 1976. C'est sur la base de cela, de ce conflit entre ces messieurs dames les professionnels et celles et ceux des professionnels qui disent qu'il y en a marre. Les internés doivent pouvoir s'organiser, faire valoir leur point de vue. C'est un monde d'étouffement. Il y en a assez, la parole aux internés, la parole aux psychiatrisés. Mais évidemment, ce sont des professionnels gauchistes, contestataires, qui ouvrent ce champ. Et c'est donc la base de cette charte du 4 décembre 1912, la charte de l'ARM, avec une trentaine de points, écrits par 4 internés avant la hache, totalisant 24 internements à E4, la plupart du temps pour l'infirmerie psychiatrique, que va commencer à se développer un corpus de revendications sur les droits des personnes psychiatrisées, les droits des internés, le droit d'accès aux dossiers, le droit contradictoire, le droit de contester les traitements, ces revendications qui sont toujours en place. Voilà. Ces revendications, bon, ben, vous les trouvez hein, sur le site du groupe Information Asile, notamment sur, avec un lien sur comment dire, l'hommage pour le Roger Gentis, ce psychiatre qui avait écrit cet opuscule très flambant anticontestataire, contestataire antipsychiatrique, Les Murs de l'Asile. Bon, qui était. C'était un très bon opuscule, mais qu'il faut bien lire comme venant d'un professionnel qui est un chef d'école dans une époque où l'antipsychiatrie est à la mode et où ces gens-là se créent un nouveau terrain et prennent un pouvoir, et même le pouvoir dans certains établissements, sur la file active en psychiatrie. Alors à cette époque-là, ce qu'il faut voir, c'est que les personnes psychiatrisées en établissement ou qui en sortent, et je ne parle pas des personnes en suivi psychiatrique privé, en état de simple malaise, je parle des gens qui ont connu l'internement psychiatrique, sont considérés comme des non-êtres. Nous ne sommes pas considérés, puisque je suis un ancien interné, comme des êtres humains à part entière. Cette revendication de l'appartenance à part entière, d'avoir des droits à part entière, est toujours en place. Et cette revendication et cette lutte pour faire valoir cela, elle a tout l'avenir devant elle. Il faut absolument la maintenir, cette revendication. Nous sommes, et nous entendons être, des êtres humains à part entière. Donc, à l'époque, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est à la fin des médecins directeurs, des hôpitaux psychiatriques, c'est les séquelles des asiles d'aliénés, et que les médecins directeurs sont des ex-aliénistes, des psychiatres chefs, médecins chefs, qui, élus par les leurs, et avec l'accord des préfectures, hein, bien puisque les hôpitaux psychiatriques sont sous la tutelle des préfectures, et n'acquièrent la personnalité juridique que tardivement, je crois que c'est en 70. Quelque chose comme ça, avec la loi hospitalière 70. Bien, donc ces médecins directeurs qui ont un pouvoir féodal avec les professionnels, avec les soignants et paramédicaux, un pouvoir féodal sur le cheptel des malades, ont en quelque sorte un droit de propriété sur la file active des patients. Et c'est espèce de droit de propriété qui va permettre, qui va traîner avec, on a toujours les séquelles, qui va faire que jusque très tard, il va être considéré que naturellement, les malades mentaux ne peuvent pas avoir par eux-mêmes voix au chapitre. Et que donc, naturellement, nous ne pouvons pas avoir une histoire par nous-mêmes, et il faut en passer par votre psychiatre, le tuteur, le curateur, parce que vous êtes juste un fou, un dément, un non-être, et etc., etc. Donc c'est, comment dire, cette problématique conflictuelle qui va être en place dès les années 70 et qui va se renforcer au fur et à mesure et qui permet d'expliquer la conflictualité vive entre la mouvance Groupe Information Asile, dont le CRPA provient, et la mouvance FNAPSI, qui va être parfaitement officialisée et valorisée par le ministère de la Santé à partir des années 2000. Hein. C'est voir le premier colloque institutionnel de la FNAPSI au ministère de la Santé le 25 février 2000. Il y a là une problématique conflictuelle qui est là en place depuis le début. En fait, ainsi, dans les années 70, alors qu'il y avait eu, suite à l'essor de la psychothérapie institutionnelle, le développement des clubs thérapeutiques de la psychothérapie institutionnelle qui organisaient des personnes psychiatrisées, ces clubs thérapeutiques organisaient les personnes psychiatrisées sous une optique paternaliste, telle que ces clubs ne pouvaient pas être dirigés par des personnes patientes. Les patients n'avaient pas, certes, bon, voilà, de l'abortisme, la clinique Chaï, etc., etc. Donc le regard essentiellement paternaliste, féodal, en fait, porté sur les personnes psychiatrisées, est un regard qui, structurellement, avec la verticalité de la structure des pouvoirs en France et des corporations, des corps intermédiaires, des syndicats, des partis, etc., a incapacité l'étatisme français, a incapacité le développement jusqu'à tard des mouvements psychiatrisés en France. Et si ces mouvements ont pu se développer, c'est sous la tutelle étatique, c'est sous la tutelle des ARS, avec les contingences que l'on connaît, les pressions sur les subventions, la neutralisation de la porte-parole nationale par le biais de la DGS, des subventions, etc., le Finkelstein, avec les problématiques conflictuelles que l'on connaît.
Voilà, c'était un extrait donc de cette mini-conférence de André Bitton donc sur l'histoire des luttes des internés en psychiatrie des années 70 jusqu'aux années 2010. Alors c'est la première partie, et bien peut-être qu'on en la diffusera intégralement un autre jour. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Shook her head and listened what the lady said. Are you sick?
Sick.
Are you a lunatic?
Lunatic.
Are you sick?
Sick.
Are you a lunatic?
Lunatic.
All I wanna do is play my music and make people happy. I don't wanna be old, drunk like my